L'enfant roi est-il le fils de Dolto, Julie Clarini?
Oui, à l'occasion du colloque Dolto à l'UNESCO qui aura lieu le 12, le 13 et le 14 décembre prochain en partenariat avec France Culture. Et nous recevons l'auteur d'un plaidoyer pour l'enfant roi qui est paru chez Hachette, Simone Korfsos. Didier Pleu, auteur de Génération Dolto qui vient de sortir chez Odile Jacob et qui est plutôt une lecture critique de l'héritage Dolto. Et Colline Fort-Poiret qui est directrice littéraire chez Gallimard. Elle est éditrice de Françoise Dolto et par ailleurs elle a une activité aussi d'éditrice dans les domaines jeunesse et éducation.
Si nous ne savons plus élever nos enfants, est-ce vraiment la faute à Dolto? Si 10 à 15% de nos chers petits anges ont déjà participé à un de ces jeux violents et stupides, tels celui du foulard où certains ont déjà laissé leur vie, c'est, disent certains, parce qu'ils ont perdu toute idée de limite et d'interdit, et de décrire leurs parents, leurs éducateurs, comme paralysés par une idéologie ambiante qui tendrait à laisser s'exprimer les pulsions, même les plus destructrices, au nom de la légitimité du désir et de l'impératif de l'écoute. Bref, le vieux slogan contestataire « il est interdit d'interdire » serait, paradoxalement, devenu 40 ans plus tard la doxa des parents de notre époque, empoisonnant leur rapport à l'autorité. D'où la transformation de l'enfant-objet d'hier en enfant-roi, voire en enfant tyran d'aujourd'hui. Et la gentille psychanalyste, devenue, bien malgré elle, vedette des ondes et des médias, est rendue responsable de tous nos échecs éducatifs. Oui, il y a, en ce 100e anniversaire de la naissance de Françoise Dolto, un vent de fronde contre la célèbre pédiatre qui n'est plus là pour se défendre. Or, comme tout théoricien, Dolto était confronté à des problèmes qui étaient ceux de son époque. Elle a tenté d'aider une génération de parents ébranlés dans leurs repères par mai 68 et qui cherchaient de nouvelles règles pour élever leurs enfants. Nous vivons, nous, dans une autre époque, que certains décriront comme marquée non plus par le refoulement et l'inhibition, mais au contraire par l'exhibitionnisme et la valorisation de la transgression. Toute la question est donc de savoir ce qui, dans le corpus doctrinal de Dolto, ressort du contexte historique où elle s'inscrivait, et quelle est la part de son enseignement qui résiste et mérite, qui résiste au temps et mérite donc d'être transmis.
Bien, nous en parlons avec Colline Fort-Poiret, qui est directrice littéraire chez Gallimard, où elle s'occupe de l'œuvre de Françoise Dolto. D'ailleurs, Gallimard, qui vient de faire paraître Archives de l'intime, Françoise Dolto, ce sont des textes, des documents, de Françoise Dolto, enfin ce qu'on appelle un beau livre, et en même temps avec des choses rares à l'intérieur. Didier Pleu, vous êtes psychologue et non pas psychanalyste. Vous dirigez l'Institut français de thérapie cognitive, vous êtes auteur de Génération Dolto qui est paru chez Odile Jacob et j'ai vu que les médias avaient souvent recours à vous quand il s'agissait de critiquer un peu cet héritage et comme nous sommes une émission de débat, eh bien vous aurez la parole. Et puis nous sommes avec Simone Korfsos qui est psychanalyste, membre de la Société Psychanalytique de Paris, maître de conférence à l'Université Paris 7 Denis Diderot et l'auteur de ce plaidoyer pour l'enfant roi qui était paru chez Hachette en 2006, il y a 2 ans, et de Éloge des Pères, c'est à paraître toujours chez Hachette Littérature.
Alors, commençons par le fond du problème. Il y a le principe de plaisir, en tous les cas en psychanalyse, il y a le principe de plaisir et puis il y a le principe de réalité. Si on favorise l'épanouissement de son enfant, qu'on exauce ses désirs, alors on est accusé de lui cacher la réalité, de lui dissimuler une réalité qui, elle, par définition, résiste. Il lui résistera, en tous les cas, dans l'avenir. Si, par contre, on refuse d'exaucer ses désirs, alors on est accusé de le castrer, de bloquer son estime de soi. On voit bien que le point d'équilibre est extraordinairement délicat. Toute la question, c'est de savoir Simone Korfsos, où Dolto elle-même le plaçait, ce point d'équilibre.
Alors, je crois qu'on prête à Dolto les propos qu'elle n'a jamais tenus. C'est-à-dire qu'on fait d'elle maintenant, dans un mouvement comme ça, on lui fait porter beaucoup de choses. Hein, une permissivité qui est totalement étrangère à la pensée de Françoise Dolto. Hein, au contraire, c'est pas parce qu'elle a... L'héritage de Françoise Dolto, pour moi, c'est surtout la place qu'elle a faite à l'enfant, à la parole de l'enfant. Son message, pour moi, qui... J'ai pris ça un peu comme un héritage en tant que psychologue travaillant avec des enfants et des familles, c'est cette idée très forte de penser qu'il faut écouter les enfants et qu'il faut parler aux enfants. Hein. Ce qui était très nouveau, hein, parce qu'il faut bien voir à quel point le statut de l'enfant a complètement changé au cours du XXe siècle. Et surtout dans les 30 dernières années du XXe siècle, c'est un contexte où le statut de l'enfant est radicalement modifié. Et Françoise Dolto a contribué peut-être au fait de faire place à un enfant qui est un aide de parole.
Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un malentendu, Didier Pleu, sur Françoise Dolto? Parce que d'une certaine façon, aujourd'hui, il y a une remise en cause de son héritage qui tient à un air du temps, liquidé mai 68, et on en fait une icône un peu de ces années 70, alors que d'une certaine façon, si j'ai bien compris, la révolution Dolto, elle est précisément intéressante parce qu'elle a lieu juste après-guerre, dans les années 45-50, à un moment où l'enfant était encore qu'un objet qui n'avait pas le droit de parler à table, et le bébé un tube digestif. Didier Pleu.
Non, tout à fait, c'est pour ça que la question initiale était bonne. C'est un rapport entre le principe de plaisir et le principe de réalité. Donc c'est évident que dans les générations que connaissait Françoise Dolto quand elle était jeune psychanalyste et pédiatre, dans les années 35-39, oui, et même nous, moi je suis né en 1952, donc c'était que quand même la génération avec des paters familiales, etc., avec, comme vous le disiez, on cause pas à table, on dit pas ce qu'on ressent, les enfants c'était les tubes digestifs, donc pas question de voir derrière des symptômes, des paroles et autres. Et on était dans un contexte de ce qu'on appelait de pathologie du refoulement. Trop d'autorité, donc on inhibe la parole, on inhibe le corps, on inhibe tout, hein, sexuellement, etc., etc. Donc c'était très bon que quelqu'un dise à ce moment-là, attendez, la réalité qu'on a vécue, travail, famille, patrie, faut peut-être arrêter ça, arrêter de formater, hein. Je me souviens quand mon cousin allait en Algérie, on était tous heureux de le voir partir en Algérie. C'était ça le formatage qu'on a connu. Donc il y avait trop de réalité, là. L'individu n'existait pas. Il était bon que quelqu'un nous dise, l'ego avant les autres peut-être. Maintenant, là où le bât blesse, c'est comme vous le disiez justement, c'est que le principe de réalité 2008, c'est que la société des marchands a fait un sacré mix avec l'individualisme, avec l'hypertrophie de l'ego, avec le principe de plaisir immédiat, et c'est là que je dis qu'il faut faire un droit d'inventaire, parce que si on fait ce qu'elle faisait justement en 1940, 50, 60, 75, c'était même un peu trop tard, on va au-delà de grands tracas, c'est tout simplement ça mon inventaire.
Alors, d'où la question qu'on peut poser à l'éditrice de l'œuvre, parce que vous la maîtrisez mieux que quiconque, Colline Fourpoiré. À l'intérieur du corpus idéologique, il y a un travail énorme de Dolto. Qu'est-ce qui tient véritablement au contexte de l'époque? Effectivement, elle parle à la génération des parents de l'après 68 qui ont été ébranlés, comme je disais, dans les convictions qui étaient les leurs, parce qu'ils ne voulaient pas retransmettre à leurs propres enfants le type d'éducation qu'ils avaient subi eux-mêmes. Qu'est-ce qui tient au contexte de l'époque? On est dans les années 70, on a besoin d'une émancipation, on a besoin de libérer la parole. Et qu'est-ce qui tient, et qu'est-ce qui fait encore sens pour, et qui donc ne ferait plus sens aujourd'hui, en tout cas, je sais pas si on est tous d'accord sur cette idée, d'ailleurs, c'est à vérifier. Et qu'est-ce qui subsiste de cette époque qui n'est pas lié au contexte, qui demeure une vérité aujourd'hui pour nous, qui peut l'être encore pour la génération suivante?
Écoutez, moi, je ne suis pas psychanalyste et j'ai fait un travail d'éditrice depuis les années 80. J'ai connu Françoise avant d'ailleurs de m'occuper d'elle sur un plan éditorial. Et je répondrai plutôt si vous voulez, un peu en spécialiste de la pédagogie, puisque je m'occupe aussi de livres pour la jeunesse, et c'est à travers ces ouvrages-là que je l'ai rencontrée. Alors, et je connais très très bien sa fille Catherine, avec qui je continue à créer, à travailler chez Gallimard.
Je voudrais préciser ma question, excusez-moi de vous interrompre, mais est-ce qu'il y a dans le corpus doctrinal des textes qui sont purement conjoncturels, qui répondent à des préoccupations véritablement d'époque, et d'autres qui auraient une prétention beaucoup plus dogmatique?
Alors, écoutez, moi je vais vous répondre. Je pense que lier Françoise Dolto à 68, mais sa révolution, elle l'avait faite bien avant. C'est-à-dire que Françoise Dolto est à la fois est une psychanalyste, une théoricienne. Et ça, on l'oublie toujours. C'est-à-dire qu'elle a créé des concepts. Et pour moi, qu'il s'agisse de philosophe ou de psychanalyste, la personne qui ne crée pas de concepts n'est pas, si vous voulez, ne crée pas vraiment d'œuvre. Elle a créé une œuvre très importante. Et d'ailleurs, là, il y a des spécialistes ici qui peuvent parler de l'image inconsciente du corps, qui peuvent parler de tout le travail qu'elle a fait avec des enfants. Alors, vous savez, moi, je pense que Françoise Dolto, tout ce qui était conjoncturel était quand même secondaire chez elle.
À la radio, c'était quand même largement de ça qu'il s'agissait.
Voilà. Alors, Vous savez, elle avait déjà créé ses concepts les plus importants avant la radio. Quand elle a décidé de parler à la radio, parce qu'on lui a demandé de parler à la radio, quand même, il faut dire, elle a arrêté ses patients. Et moi, j'ai assisté, enfin, quand elle est morte, d'abord, un an avant sa mort, vous savez, elle était vraiment très, très naturelle. Un jour, elle m'a dit, dans une conversation de travail, « Mais écoutez, je vais mourir. » Et je lui ai dit, « Françoise, alors, dans ce cas-là, écrivez quelque chose en direct pour les adolescents. C'est un public qui m'intéresse beaucoup et toujours les adolescents, parce que personne ne s'en occupait éditorialement. » Elle était déjà malade et elle a dit oui, avec l'enthousiasme qui la caractérisait, oui. Et elle a écrit « Parole pour adolescents », le complexe du homard, dans lequel il y a un grand chapitre sur l'autorité d'ailleurs. Je veux dire, elle n'a pas... je pense que Françoise, et vous le verrez très bien dans Archives de l'intime et dans sa trajectoire, elle ne s'est pas tellement occupée de la conjoncture. Bien sûr, elle devait répondre à des situations matérielles, sociales. Mais elle a créé une œuvre. Elle a créé des concepts.
Alors, Simone Corsos, puisque vous êtes psychanalyste, oui, clinicienne ou théoricienne, Françoise Dolto?
Ben, les deux, justement. Mais c'est vrai qu'on laisse tomber, enfin, on néglige, on minimise la part théorique de Françoise Dolto, qui est très importante. Et on voit toujours les émissions, les textes qui s'adressent à un très grand public, mais on oublie un petit peu qu'effectivement, il y a des concepts théoriques de Françoise Dolto qui sont très importants, comme l'image inconsciente du corps.
Mais c'est pas dépassé, ça, aujourd'hui?
Ah non, pas du tout. Et les castrations symbolisées qui justement vont pas du tout dans le sens de qu'on met en avant actuellement, qui serait que Françoise Dolto a dit qu'on pouvait tout laisser faire aux enfants. Bien au contraire, elle a théorisé l'idée que ces interdits fondamentaux sont indispensables, hein, avec en plus l'idée qu'ils doivent être partagés. C'est-à-dire, c'est pas seulement que les parents vont poser un certain nombre d'interdits à leurs enfants, mais qu'il faut qu'ils aient intégré eux-mêmes ces interdits. Et c'est là où on rejoint l'idée de notre contexte socio-culturel actuel, où effectivement nous sommes dans une ambiance où tous ces interdits sont peut-être pas mal remis en question, hein, chez les adultes. Mais alors, on avance, vous parlez de l'enfant roi un peu comme s'il existait. Est-ce qu'il existe, l'enfant roi? Est-ce que c'est pas une image que la société met en avant, que les médias développent beaucoup, et qui est une image, c'est pour ça que moi j'ai écrit ce livre « Plaidoyer pour l'enfant roi », c'est une image quand même très dévalorisante, péjorative, négative, de cet enfant qui serait un petit tyran, un petit monstre qui en impose à tout le monde, qui a des prérogatives de roi, et tous les adultes n'ont plus qu'à se plier à ses désirs. Or, qu'est-ce qu'on voit? Les enfants ne sont pas si rois que cela. Et quand vous dites principe de plaisir, principe de réalité, et qu'on laisserait les enfants dans le principe de plaisir, les enfants sont confrontés à l'heure actuelle à des réalités extrêmement dures. Extrêmement dures. On peut penser, bon, dans les enfants dans le monde entier qui sont prostitués, les enfants soldats, les enfants marchandisés, enfin, mais rien que chez nous.
C'est pas cela que s'adresse la psychanalyse, hélas.
Non, non, mais enfin, on peut quand même situer tout ça dans un contexte. On parle de l'enfant roi, là. Et même les enfants chez nous, à l'heure actuelle, sont soumis à rude épreuve. On leur demande de porter beaucoup de choses qui fait que ce sont pas des enfants si roi que ça.
Alors Didier Pleu, oui. Permissive, alors est-ce que Dolto était permissive ou pas?
Mais elle était à son insu, bien sûr qu'elle ne l'a pas voulu. Elle voulait défendre l'enfant, donc personne ne veut qu'un enfant soit omnipotent, tout puissant et en fait vulnérable. Bien sûr que non, elle serait maintenant là, elle nous dirait la même chose. D'ailleurs, dans ses derniers écrits, on sentait bien dans son autoportrait qu'elle commençait à voir poindre. Elle parlait même des parents taxis, une expression que j'emploie souvent.
Parents de taxi?
C'est-à-dire les parents quand même les enfants n'importe où, sont toujours à la solde des enfants pour tu veux ci, tu veux ça. Il y a aussi les parents animateurs, les parents hôteliers, etc. Dans le sens chosification du parent. Donc permissive, non, elle ne le voulait pas, mais son mode d'emploi éducatif, parce que vous parliez de doctrine, le point central de la théorie chez Françoise Dolto, c'est l'interdit symbolique, ce qui est tout à fait logique avec la psychanalyse. C'est-à-dire que si l'interdit du désir incestueux et bien signifié, l'humanisation de l'enfant va se faire d'une façon tout à fait logique. Après les castrations symboligènes, que ce soit le sevrage, etc., le stade anal et autres, tous ces interdits symboligènes, elle le disait bien, symboliques, par la parole, par la communication, vont suffire. Peut-être, pour des profils d'inhibition, d'anxiété massive et de destruction d'estime de soi, je peux rejoindre la psychanalyse, mais pas, je répète, non pas pour tous les enfants, mais les enfants qui ont une problématique de défoulement et qui ont besoin d'apprendre la réalité, ceux-là ont besoin d'une verticalité parentale et ont besoin d'un apprentissage quotidien de cette réalité-là. Le symbolique ne suffit pas. Quand elle disait pas de règles, pas d'interdits, malheureusement, c'est la définition du dictionnaire de la permissivité. Mais elle disait ça parce que les règles et les interdits qu'on avait eus dans les années 40-50 étaient absurdes. Mais c'est vrai quand elle dit que l'enfant va réguler ses propres besoins d'une façon... Enfin, seul, non, un enfant ne veut jamais dormir, non, s'il est tonique. Si c'est quelqu'un qui est hypotonique, qui dormira tout seul. Mais je parle des enfants souvent offensifs, etc. Non, ils ne régulent pas leur alimentation, c'est faux. Il faut une médiation entre le réel et eux. Et là, je crois qu'elle... Elle oscillait entre son bon sens et la théorie, et ça ne marche pas tout le temps. Quand elle fait des définitions de besoins et désirs, on se perd là-dedans. Elle confond le lacanisme du désir destructeur pour l'autre, hein, voire égal, maître esclave. Et en plus, les besoins, elle ne sait pas définir. Non, les enfants ont des demandes existentielles. Merci Françoise Dolto, quand un enfant veut une écharpe blanche, il a un souhait de se singulariser. Mais quand un enfant refuse l'écharpe quand il fait 8 degrés dehors, c'est une demande de satisfaction immédiate. Et là, là-dessus, elle ne l'a pas vu venir parce que ça n'était pas la pathologie des années 60.
Colline Fort-Poiré.
Écoutez, moi, ce n'est pas l'image que j'ai de Françoise Dolto, ni de ce qu'elle disait dans ses textes. Par exemple, sur la faim, l'enfant ne veut pas manger. Mais écoutez, elle n'a jamais dit à l'enfant « mange ce que tu veux ». Elle a dit « on ne force pas un enfant à manger ». Vous décriviez une enfance...
Alors, il ne mange que des bonbons.
Non, 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 justement
si,
pas.
C'est ça que mais si, on, mais non, si, je peux non, vous dire. Dans la réalité, personnel. C'est bon, c'est ça
mais,
qui se passe.
Écoutez, non...
Quand on ne force pas, on n'a pas dit gaver.
Mais c'est
quand
pas
on n'incite pas l'enfant à manger, il va trouver autre chose.
Non, elle disait « écoute, tu ne veux pas manger, tu n'as pas faim, mais tu ne mangeras pas ». Des bonbons, tu mangeras pas autre chose.
Mais ça marche pas, madame. Il a toujours une barrette de chocolat sous le lit.
Mais écoutez, les enfants dans l'école de la Neuville où elle se rendait souvent et qu'il y a une organisation.
Il n'y a qu'une école qui n'a jamais fait abondance quand même. Il n'y a qu'une école, la Neuville. C'est le Sommerhill français, mais ça ne marche pas, madame.
Écoutez,
il y a une école qui a été fondée d'après les principes de François Dolto.
C'est le Sommerhill français.
Et alors justement, on mange, on aide même justement à mettre
combien,
la
madame,
table.
Dans cette école-là.
Mais écoutez, je vous parle de ce qu'elle faisait, et comment elle était avec les enfants.
Madame. Sinon, il y aurait des Neuvilles
partout.
Elle
ne n'a jamais donné aux enfants ou conseillé de donner des bonbons si on ne mangeait pas. Elle a simplement dit. On ne force pas un enfant à manger. Le sommeil, par exemple, elle a toujours dit, un enfant doit dormir dans son lit. On doit l'accompagner le soir dans son lit et fermer la porte ou la laisser entrouverte s'il a peur. Mais, par exemple,
Dolto,
l'enfant roi, par exemple, revenons. Moi, j'ai lu votre livre. Je n'ai absolument pas reconnu Françoise Dolto ni ses conseils, ni ce qu'elle disait. Par exemple, aux États-Unis, où souvent les enfants dormaient dans le lit des parents très tard, je veux dire, ils ne s'appuyaient quand même pas sur la théorie de Françoise Dolto.
Non, de Dr. Hein? Spock qui était psychanalyste. C'est la même chose.
Mais écoutez, ne confondez pas le Dr. Spock et
Ah si, c'est
et
la
Françoise
même chose,
Dolto.
C'est la psychanalyse dans l'éducation, madame.
Mais écoutez...
Comme Neil, comme Winnicott, qui a été bien abandonné au Royaume-Uni.
Alors,
je crois
Simone
qu'il faut peut-être resituer le débat autrement.
Psychanalyse, hein? Puisque c'est vous qu'on attaque, en fait.
mais c'est aussi Françoise Dolto qu'on attaque. Enfin, je crois que si on a tellement attaqué Françoise Dolto, c'est aussi parce qu'elle est psychanalyste, mais c'est aussi, je pense, parce qu'elle s'est fait porte-parole de l'enfant. Et à travers Françoise Dolto, je me demande si c'est pas l'enfant qu'on attaque. Et que cet enfant roi dans notre société, qui est idolâtré, souhaité, revendiqué, en réalité, il y a l'autre versant, tout à fait paradoxal, qui est que les enfants ne sont pas si bien traités que ça dans nos sociétés. Hein. Non, mais je voulais revenir sur le fait qu'il faut peut-être élargir le débat et ne pas le poser uniquement en termes de l'autorité, oui, non, on n'interdit pas. Je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'abord, je ne vois pas que des parents, moi, qui ne sont incapables de poser des interdits à leurs enfants. Moi, j'en vois plein, oui. Qui continuent à avoir une attitude tout à fait cohérente, structurante avec leur enfant, mais évidemment sur un modèle différent. On ne peut pas revenir,
bon
vous
sens.
Le dites. disiez très bien qu'on ne peut pas revenir au modèle du pater familias et de l'autorité d'avant. Donc l'autorité, c'est pas est-ce qu'on va faire comme avant ou est-ce qu'on laisse tout tomber, c'est comment à l'heure actuelle, dans le contexte contemporain, on va exercer, on va trouver, inventer des nouvelles modalités pour exercer l'autorité. Et que ça va dans le sens donc de Françoise Dolto, qui a avancé cette idée fondamentale que l'enfant est un être de parole, on parle avec lui, on écoute sa parole, il a quelque chose à dire, et ça va dans le sens aussi de, je dirais, de la démocratisation. Hein. Nous sommes quand même dans un mouvement de la démocratisation qui fait que eh ben, l'enfant aussi va être considéré comme un égal. Avec évidemment ce paradoxe fondamental qu'il n'est pas vraiment égal puisqu'il dépend des adultes. C'est là où est tout le problème. Néanmoins, c'est instaurer une nouvelle relation entre les parents et les enfants qui est une relation de parole. Et moi, je vois des parents, effectivement, qui passent beaucoup de temps à discuter avec leur enfant. Alors, on peut dire, parfois, c'est excessif. Hein, quand on discute 3 heures pour savoir s'il faut aller se laver les dents, bon, d'accord, là, on tombe dans des situations excessives. Mais, d'une manière générale, ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est des rapports entre les parents et les enfants où ça discute, où on pense que l'enfant a quelque chose à dire, où on le met en et où on le prépare. D'ailleurs, et les enfants maintenant sont vraiment des êtres très discutants. Hein. Ils ont une capacité, une intelligence pour discuter, pour trouver des arguments, pour comprendre, pour négocier. Et tout ça, je crois, c'est un nouveau mode de relation beaucoup plus démocratique.
Mais c'est bien là peut-être que Françoise Dolto a aussi déstabilisé d'une certaine façon. Il y a une génération de parents qui se réinvente parce qu'avec des enfants extrêmement discutants qu'on a poussé dans l'argumentation, il y a un moment où arrive l'argument ultime qui est tu es un enfant, je suis un adulte. Et cet argument, il n'est pas évident, parce que justement, ce que Françoise Dolto a fait, mais moi je trouve que c'est plutôt bien, c'est-à-dire que plutôt bien que sûr. Le bon sens, elle a cherché à remettre une quête de sens. Mais du coup, nous sommes des parents questionnants et pas toujours peut-être à la hauteur de ce qu'on voudrait connaître.
Oui, mais elle a toujours dit que les parents devaient rester à leur place. Et les enfants à la leur. Et c'est-à-dire, elle posait ses interdits, ses règles, et la loi. Et je l'ai toujours entendu parler de loi dans la famille, de loi à l'école. Dans Paroles pour adolescents, par exemple, où elle aborde pour eux la drogue, les pièges de la drogue, l'autorité, la violence, elle donne toujours une place aux parents et aux adultes de confiance comme des guides, comme des accompagnateurs, pour ceux qui doivent accompagner l'enfant dans leur maturité, enfin dans leur
Didier Bleu, vous écrivez, je vous cite, mais il n'est pas question de s'abstenir de communiquer avec son enfant, mais pourquoi toujours parler, justifier, expliquer, là où l'enfant attend le plus souvent une réponse claire, oui ou non. C'est vraiment à l'opposé de ce qu'on vient d'entendre.
Oui, bien sûr, parce que je pense effectivement que l'enfant n'est pas l'égal de l'adulte. C'est ça le problème. Et à force de lui donner la parole, je pense que certains coupent la parole. Je veux pas faire l'amalgame. Ce sont pas tous les enfants. Je pense aux enfants ados qu'on voit et qui dysfonctionnent dans nos cabinets. Hein. Quant aux affaires d'autorité que cite Madame dans le petit livre sur l'adolescence, c'est souvent sa fille qui parle d'autorité. Dans les textes de Françoise Dolto, j'ai jamais. Il faut me le dire exactement les pages, mais ça, c'est une compilation qui est faite avec sa fille. Donc, ils ont rajouté un petit peu la sauce 2003 sur l'adolescence. Mais non, l'autorité, elle n'était pas contre, elle n'en parlait pas, je répète, parce que c'était pas d'actualité. À l'époque, il fallait lutter contre l'autorité. Mais de dire que l'enfant est égal, non, ça ne va pas du tout, ça. Enfin, moi, je ne pense pas que ce soit une égalité, parce que on disait ça récemment, il ne faut pas qu'il y ait de hiérarchie entre l'enfant et les parents. Mais si, le parent, c'est celui qui sait la réalité. Ça va être la médiation entre la réalité, bien sûr, et le vécu de l'enfant. Alors que Françoise Dolto, ce qu'elle voulait surtout, c'était que l'enfant soit autonome. Vous savez, cette fameuse phrase qu'on a dit, qui était de Piaget, un enfant, s'il expérimente tout seul, il va vraiment découvrir des choses. Mais ce qu'ils oubliaient de dire, c'est que Jean Piaget lui-même était tout prêt. Il préparait les activités, il préparait les stimulations, il contraignait, il interdisait, et parfois même il formatait. Un enfant tout seul, en autonomie, ça ne marche pas. Peut-être certains tempéraments introvertis, inhibés, qui ne posent pas de questions, mais dans la société actuelle, ça ne marche pas. Donc, il faut une verticalité. Et là-dessus, elle n'est pas du tout d'accord quand elle dit « les parents n'ont pas des éducateurs ». Quand elle dit, page 194, que ces enfants, parce que toujours que je cite, je suis soupçonné de tronquer les choses, quand elle dit que les enfants n'ont que des droits, les parents n'ont que des devoirs, ça ne va pas. On n'est pas dans l'autorité, là. Alors, je suis contre le pater familias, mais cette autorité-là n'en est pas une. Mais je comprends très bien, parce qu'elle parlait d'autre chose. Elle parlait de libérer la parole d'enfants pathologiques. Et c'est ça le problème. Elle était psychanalyste pour la psychopathologie et en fait, elle a vulgarisé une technique de psychothérapie. Et ça, je ne suis pas d'accord. Je suis le premier à envoyer des enfants, pourquoi pas en analyse. Mais je fais le distinguo quand il y a un problème de carence éducative. Même moi, en tant que psychothérapeute, je me retire. Il s'agit d'un problème éducatif. On va en parler peut-être aux parents si ça bloque au niveau émotionnel, mais on va surtout donner des conseils éducatifs. Quand il s'agit d'une psychopathologie lourde, alors c'est ce qu'elle traitait, Françoise Loiseau, là je crois que toutes les obédiences, pourquoi pas.
Vous voulez dire qu'elle a généralisé des principes qui s'appliquaient à des enfants en souffrance à la totalité des enfants.
Tout à fait. Et c'est ça qui ne va pas, c'est ce que contestent en général les psychanalystes qui s'occupent d'adultes. Parce que la démarche analytique, c'est une aventure personnelle. D'abord, il faut avoir une pensée formelle, abstraite, distanciée, pour une nouvelle narration de son histoire, pour au moins comprendre symboliquement le transfert. Et là, elle a plaqué ça sur les enfants avec des tours de magie sur « j'écoute les enfants, je les comprends à travers les symboles ». Souvenez-vous, le dessin, le contenu latent du dessin, c'est Françoise Dolto, voire les procès d'Outreau. On n'a pas critiqué l'expert, on a critiqué l'expert qui était mauvais. Personne n'a dit « et si les dessins d'enfants n'étaient pas tout le temps, n'avaient pas des contenus latents ?» Et ça, c'est interdit d'en débattre. Et c'est là que je suis pas d'accord. Par contre, qu'on dise que la psychanalyse puisse aider des enfants complètement bloqués, cassés, qui ne peuvent pas parler et qui parlent avec leur corps, d'accord. Mais qu'on en généralise, ça a été même généralisé, souvenez-vous, on n'en a pas parlé pendant le centenaire, l'autisme. L'autisme, 30 ans de retard dans notre pays parce que c'est la mère qui est responsable dans sa distanciation froide avec les enfants autistes. Il y a de quoi se révolter quand on dit que je pousse un peu trop. Non, je ne voulais pas que la grande célébration passe sans qu'on fasse un peu l'inventaire. Et je ne parle pas d'autres choses plus privées qui me sont bien sûr interdites.
Alors, je voudrais revenir sur l'enfant attend oui ou non. Pour moi, les enfants, c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus intelligent que ça. L'enfant n'est pas une espèce de machine qui fonctionnerait sur un mode binaire. On dit oui ou on dit non. Non, les enfants cherchent à comprendre. Les enfants sont des grands philosophes. Les enfants sont des théoriciens. Les enfants posent des questions métaphysiques, existentielles, fondamentales. D'où on vient, où on va, qu'est-ce que c'est que la mort, qu'est-ce que c'est que la différence sexuelle, d'où viennent les bébés, etc. Donc, les enfants demandent autre chose que oui ou non. C'est vraiment, je trouve, une conception... comme si c'était une machine qui doit fonctionner, qui fonctionne ou qui dysfonctionne. C'est pas ça, il y a une quête de sens. Et là, c'est là où Dolto, évidemment, nous a quand même laissé
Est-ce qu'il n'y a pas un âge à partir duquel la demande de sens peut être satisfaite et un autre où on doit dire, eh bien non, maintenant tu manges ou maintenant tu dors parce que...
Mais ça n'empêche pas. C'est là où je voudrais sortir de cette espèce schématisation réductrice du débat où tout se résume à tu fais ceci, tu fais pas cela. Rien n'empêche de poser des interdits à un enfant, mais aussi de les lui expliquer. Rien n'empêche d'exiger quelque chose d'un enfant, mais d'admettre aussi qu'il puisse lui protester, argumenter, se révolter. Ça n'empêche pas. C'est pas du tout ou rien.
Colline Fort-Poiré.
Écoutez, moi je pense exactement comme vous qu'un enfant n'est pas. Enfin, justement, c'est contre cette façon d'élever les enfants avec des oui et des non et que Françoise Dolto a toujours lutté. Et quand on dit vulgarisation de son travail et tour de magie, ça c'est vraiment la. Comment dire je dirais presque à la limite du ragot, parce que. Il faut lire Françoise Dolto. Et moi, quand je vous entends parler d'Outreau, je trouve que c'est un amalgame qui est vraiment très dangereux. Sur le dessin d'enfant, par exemple.
Non,
je voulais vous dire une chose.
Oui, mais la bêtise des experts n'est pas forcément, et de leur interprétation n'est pas forcément imputée à Françoise Dolto. Elle aurait peut-être fait mieux.
C'est vrai que Françoise Dolto a utilisé dans sa clinique les dessins d'enfants, le modelage et surtout cette poupée fleur qui lui a permis de soigner. Elle n'en a jamais, jamais parlé à l'extérieur de son cabinet. Et quand j'étais là, quand nous avons brûlé tous les dessins d'enfants de sa clinique privée, et ces dessins ont été brûlés. Et dans le livre Archives de l'intime, ce sont les dessins de ses propres enfants que l'on montre. Mais jamais un dessin d'enfant soigné par elle et suivi par elle. Alors moi, je trouve assez dangereux de... Je sais pas, c'est l'amalgame pour moi, parfait. Outreau ? Ah ben oui, ben écoutez, regardez Dolto Outreau. Mais Dolto, de toute façon, elle était pour la loi, elle n'a jamais vulgarisé ses théories, elle a simplement parlé, elle a simplement permis au plus grand nombre, à moi par exemple, qui ne suis pas psychanalyste, dont je peux le dire, j'avais des enfants jeunes, elle m'a parlé, à comprendre les enfants et à mettre la parole et le dialogue au centre de l'éducation. D'ailleurs, elle disait, je vais être médecin d'éducation.
Moi, je voudrais vous soumettre l'idée contraire que peut-être qu'on a tendance à aujourd'hui construire cette idée de l'enfant roi, mais peut-être qu'aujourd'hui, le principal danger, c'est celui, au contraire, du retour d'une sorte de, non pas d'autorité, mais de demande de bonne conduite qu'on impose à l'enfant. Souvent, maintenant, au lieu de se demander quelle souffrance exprime un enfant, on propose un stage d'autorité aux parents. Et je pense à ce que vient de dire le porte-parole de l'UMP, Frédéric Lefebvre, le 1er décembre, lors d'une discussion sur l'abaissement de la responsabilité pénale à l'âge de 12 ans. Ben, Frédéric Lefebvre en a profité pour rajouter une couche sur l'idée du dépistage précoce des enfants dès l'âge de 3 ans, qui avait fait un tollé en 2006, une pétition avec des dizaines de milliers de signatures. Et on a l'impression que là, alors à nouveau, la question est sur la table. Alors qu'il me semble qu'une des leçons, je crois, qu'on peut garder de Françoise Dolto, c'est que précisément l'enfant se construit aussi, Didier Pleu, en fonction de ce qu'on projette sur lui, en fonction de ce qu'on craint pour lui. Et si on dit à un enfant de 3 ans qu'il a déjà des troubles de conduite, si garder son doudou à 3 ans à l'école maternelle est déjà un symptôme d'un malaise, est-ce qu'on ne construit pas aussi des enfants qui vont mal ? Didier Pleu.
Oh, mais ça, je ne serais jamais d'accord avec ça. J'étais un des premiers à signer la pétition la semaine dernière. Vous vous souvenez, un psycho-enfant a fait ça, où on a tous, des experts, entre guillemets, ont signé une pétition pour vite taire ce projet scélérat d'emprisonner les enfants à 12 ans. Donc j'étais contre aussi de donner à la police l'observation comportementale de certains enfants, qui volent un œuf, volent un bœuf. Non, tout ça, je ne suis pas de cette obédience-là. C'est pour ça, quand on fait des fois l'amalgame entre ma réaction pour certaines hypothèses de Dolto et on balaye l'héritage 68, non, j'étais du bon côté en 68, hein. Moi, j'aimerais bien que les historiens se penchent sur, entre 1940 et 44, sur la vie de Françoise Dolto. Là, des fois, ça me heurte en tant que citoyen. Donc, quand vous dites ça, le sens, la quête du sens.
Ou peut-être un tout petit peu plus précis, non?
J'ai lu ça tout simplement dans les correspondances. On sait qu'en 1943, elle a travaillé avec Alexis Carrel. Pour moi, c'est quelqu'un qui est pas terrible. Quand je sais que René Laforgue faisait son grand psychanalyste ami, faisait des allers-retours à Berlin, pas terrible à l'Institut Göring. Bon, elle n'était au-delà de ça. Disons qu'elle était dans une deuxième réalité. Mais moi, on me traite de père fouettard en ce moment et de réac. Je ne suis pas un homme de droite et je pense très fort que l'hypertrophie du moi amène une philosophie de droite. Pour répondre à votre question, c'est le sentiment de l'autre que je ne vois jamais dans l'œuvre de Dolto. C'est pour ça que j'ai opposé Rousseau. Qu'est-ce que veut Rousseau ? Rousseau, il veut un être à part entière avec l'autre dans le contrat social. Je ne vois dans l'œuvre Dolto jamais, jamais quelque chose sur le sentiment de l'autre, sur donner à l'autre. Elle parle d'humanisation comme un objectif à long terme. Mais en éducation, apprendre la présence de l'autre, je ne l'ai pas. Quant à la quête du sens, ça me paraît extrêmement dangereux. Je pense que beaucoup de parents sont devenus des parents psy. Vous avez raison, madame. C'est horrible de dire qu'un enfant qui pleure, simplement, c'est un caprice. Grâce à Dolto, on sait ça. Il n'y a pas que des caprices. Des enfants disent des choses. Mais c'est devenu général. À un moment donné, j'ai vu des tas de parents qui me disent ça. C'est peut-être parce qu'on est divorcé qu'il a du mal avec l'école. C'est peut-être parce que sa grand-mère est... Qu'est-ce que c'est que ça? Laissons les spécialistes parler comme ça. Au quotidien, la première chose, c'est regardons la réalité des choses. Faisons des observations, etc. Pas dans le sens, je ne sais quoi, extrême droite ou je ne sais quoi, pour qu'on les dresse et qu'on les mate, c'est pas ça. Mais je crois qu'il faut qu'on revienne dans le réel, parce que là, moi, toutes les semaines, en consultation, j'ai des parents qui me donnent des leçons et qui me disent, vous savez, en plein Oedipe. Un autre me dit, c'est la crise d'adolescence, c'est normal. Non, enfin, c'est normal pour le complexe du homard, c'est pas normal.
Enfin, il y a une vulgarisation de la psychanalyse qui fait partie de la vie quotidienne.
Oui, mais qui n'aide pas forcément.
Ben, c'est ça, la question.
Ça peut aider les profils inhibés, je répète, mais les profils offensifs, certainement pas.
Simone Corfsos, oui. Il y a un argument que j'ai trouvé chez Didier Pleu qui m'a frappé et que je voudrais vous opposer. Il dit, je le résume, hein, l'autonomie, c'est pas un donné qu'il faudrait respecter chez l'enfant parce qu'il serait déjà présent dès la plus petite enfance. L'autonomie, c'est l'aboutissement d'un processus, c'est un résultat qu'il faut construire à travers les processus éducatifs. Et donc, si on s'adresse à l'enfant comme s'il était déjà autonome, si on prétend respecter son autonomie, on fait semblant qu'elle existe alors qu'elle n'existe pas. Il me semble que là, on touche quand même un point assez fort de la doctrine de Dolto.
Enfin, ça va dans droit fil de la théorie psychanalytique, de dire que l'autonomie est une construction. Bien sûr, Freud nous a bien rendu attentifs à ce phénomène de la détresse fondamentale, la néothénie de l'être humain, qui est au départ dans une relation de dépendance totale à l'environnement.
Alors pourquoi considérer l'enfant, et en particulier le petit enfant, comme un être autonome dont on pourrait respecter, dont on devrait respecter l'autonomie?
Je crois que c'est encore une fois mal posé le problème. C'est pas l'enfant de très dépendant va devenir relativement dépendant, puis va redevenir autonome, avec l'adulte qui s'imagine qui est totalement autonome et qui ne l'est jamais complètement, bien entendu. Mais bon, il y a toute cette évolution. Et si vous voulez, la question, c'est comment ça se construit, tout ça. On ne va pas lui prêter une autonomie comme ça.
Il n'y a pas un risque en ce moment d'imaginer, de plaquer une autonomie chez l'enfant qui n'existe pas,
écoutez,
parce qu'elle est à construire,
encore une fois. Quand vous observez ce qui se passe à l'heure actuelle, vous voyez bien
quand
que...
Quand on dit un enfant soit soi-même.
Oui, mais vous voyez bien qu'on voit des situations extrêmement contradictoires. C'est-à-dire qu'on va dire que cet enfant est autonome, mais en même temps, on le pourchasse sur son portable, on veut savoir tout le temps où il est, on l'accompagne partout, il n'a plus le droit de jouer dans la rue, il est peut-être beaucoup moins autonome que les enfants qui jouaient dehors à la campagne il y a 30 ou 40 ans. Donc, vous voyez, il y a des phénomènes extrêmement contradictoires, et on met en avant un aspect de la question pour des raisons idéologiques, pour défendre en réalité des positions idéologique, sans voir la complexité de la chose, et que ces enfants, alors autonome, c'est peut-être pas la question de l'autonomie, c'est la question de prêter à cet enfant la capacité de dire des choses et de penser des choses. Et là, vous disiez, les parents s'interrogent, c'est peut-être parce qu'on a divorcé, que, etc. Mais très bien, les parents s'interrogent, ça veut dire que les parents s'intéressent à la vie psychique de leur enfant, c'est que les parents cherchent à comprendre, c'est que les parents ont le souci que c'est de la souffrance de l'enfant. Moi, alors que ça prenne un langage psychanalytique d'emprunt, peu importe. Mais ça correspond quand même à un souci fondamental chez beaucoup de jeunes parents, et je trouve qu'il faut le dire, qui ont effectivement cette attitude de vouloir comprendre ce qui se passe pour leur enfant.
Oui, Didier Pleu, c'est vrai que quand vous dites qu'il faut revenir au bon sens, le bon sens c'est un peu terrifiant comme horizon pour l'éducation des enfants. Enfin, on se dit...
Bon sens en phase 1.
Alors
Bon sens en phase 1, si un enfant, l'autre fois on me demande pourquoi mon enfant n'arrête pas de boire du soda, qu'est-ce que je dois faire? Donc moi je n'achetais pas de soda, oui, c'est ça le bon sens. Par contre, si un enfant n'arrête pas en secret de racheter du soda et d'avoir encore des comportements d'oralité, comme on dit, je ne sais quoi, là, il faut peut-être se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Ce que je vois, c'est qu'on met la quête du sens en premier, c'est tout simplement ça le danger, j'ai pas dit qu'il fallait
Mais l'être enlever. Humain en premier cherche du sens, c'est fondamental chez tout être humain, sinon c'est une machine.
Et pourquoi revenir à Françoise Dolto pour dire des choses aussi simples? Elle les a dites, elle aussi. Et puis, je trouve quand même qu'il faudrait lever un peu le débat, parce que le soda, je ne sais pas, l'écharpe qu'il faut mettre avant de sortir... Non, je crois que la construction de l'autonomie... Non, mais écoutez, les concrets, il faut lire Françoise Dolto pour voir qu'elle était très concernée par le concret, et qu'elle a toujours donné, justement,
des conseils
de bon sens.
Moi, ce que j'ai retiré de Dolto, c'est quand même pas de dire de boire ou ne pas boire du soda. Moi, ce que j'ai retenu de Françoise Dolto, c'est que l'enfant est en quête de sens sur des choses extrêmement importantes, et qu'on peut parler à l'enfant des problèmes très importants de l'existence. Oui. Alors je vais vous dire, moi personnellement, j'ai donc fait beaucoup de recherches sur les enfants handicapés. Et c'est vraiment l'héritage de Françoise Dolto qui m'a permis d'avoir là une approche qui consiste à penser que les enfants, aussi handicapés soient-ils, ont quelque chose à dire, qu'on ne les écoute jamais, parce qu'on parle du principe que de toute façon ils n'ont rien à dire puisqu'ils ne savent pas très bien penser et parler. Et donc ça m'a permis moi de mener toutes mes recherches auprès de ces enfants-là avec cette idée de m'autoriser au fond à aller dans les thérapies avec des enfants handicapés en pensant qu'ils ont quelque chose à dire et de parler aux enfants même des situations les plus difficiles qui concernent par exemple le handicap ou la question de la mort, de la maladie grave, etc., de la haine, de tout ce que, à quoi ils sont confrontés, qui sont des choses très difficiles à aborder, mais qui Françoise Dolto nous a montré que quand il y a du non-dit, c'est beaucoup plus néfaste, plus difficile à supporter que quand les choses sont dites. Aussi difficiles soient les choses qu'on a à dire. Et je trouve que c'est là la leçon. Alors, c'est le soda, on en est loin.
Non, mais on peut faire du conceptuel, bien sûr. Je peux aussi, hein, pas de problème. Sur le concept d'autonomie, vous demandiez quels sont les grands points dogmatiques de François Dolto. Le concept d'autonomie est fondamental en psychanalyse parce qu'il y a souvent le soupçon que le désir adulte peut être destructeur, hein, si la personne n'est pas au clair avec ses désirs inconscients. Et pourquoi pas ? Parfois oui, mais c'est un soupçon total, c'est ça le problème. Par exemple, on voit souvent maintenant, on va proposer à des adolescents de défusionner de l'histoire familiale en prenant une chambre en ville, alors que ce sont des adolescents qui sont pas matures du tout. Donc il y a toujours ce soupçon que les parents, l'autorité parentale, l'histoire familiale va peser sur l'enfant. Je crois qu'il faut arrêter ce soupçon déjà. Je ne pense pas que toutes les familles soient perturbées, cassées à ce point-là. Et quand l'enfant ou l'ado n'est pas autonome, il n'est pas prêt, tout simplement. L'autre chose, c'est à propos de la philosophie de l'enfant bon. Ça, je crois que c'est... Elle rejoint Montaigne et son bon sauvage à ce niveau-là. Je crois qu'elle croit fondamentalement, Françoise Dolto, qu'avec de l'amour, de la liberté de parole, de communication, le respect de son désir, il va s'humaniser. Je crois qu'elle le croit fondamentalement. Et quand je lui oppose Rousseau, souvent c'est le contresens qu'on donne à Rousseau. Rousseau dit que... Jamais, il a surtout dit qu'il fallait de l'éducation. Bon, pas terrible peut-être chez lui, puisqu'il s'en est pas occupé de ses enfants, mais en tout cas, philosophiquement, je crois qu'il avait raison. Non, enfin, l'enfant...
Votre livre est bâti sur une construction de Rousseau-Dolto. Parce qu'on dit souvent que Dolto est rousseauiste, et vous montrez que c'est pas le cas.
Non, il a fait un contresens. Il a surtout dit qu'il fallait de la médiation et de l'éducation, parce que justement, pour lui, l'enfant n'est pas autonome. C'est un monde de pulsions, il n'employait pas ces termes-là, parce que Freud n'était pas né, bien sûr. Mais oui, je reste là-dedans. Il n'est pas autonome parce qu'il est prisonnier de ses pulsions, l'enfant. Et la seule chose pour qu'il baisse ça, qu'il prenne le principe de réalité, c'est l'éducation. Mais ça ne veut pas dire que c'est un pervers polymorphe, ça ne veut pas dire qu'il est méchant, ça veut dire qu'il a du mal. C'est pour ça que je fais toujours le distinguo entre les demandes de satisfaction immédiate pulsionnelle et les demandes qu'il faut garder chez Dolto, je répète, d'existence et d'information. Oui, madame, on a dit à un enfant le décès d'un parent, on a expliqué des choses, on a parlé de choses, je suis tout à fait d'accord, mais nous il ne faut pas se tromper de demande, c'est uniquement ça.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, Simone Corfeau, c'est une espèce d'hypocrisie à demander aux enfants de se plier à des règles, c'est ce que vous dites dans la conclusion de votre livre d'ailleurs, que la réalité dément en permanence, de respecter des valeurs qui n'ont plus cours, on leur demande justement, on leur demande une certaine indépendance alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas sûrs d'être des adultes parfaitement autonomes, on leur demande de résister à la consommation alors que tout est fait pour que les adultes consomment en permanence. Enfin, c'est effectivement des demandes très contradictoires qui pèsent sur les enfants.
On leur reproche ce qui finalement sont les caractéristiques de la société contemporaine. C'est dans ça que je dis que l'enfant roi, c'est une espèce d'image construite comme ça, mais qui est le reflet exact de l'adulte contemporain.
L'adulte hypermoderne.
L'adulte hypermoderne décrit par Marcel Gauchet. Et après, l'hypocrisie consiste effectivement à reprocher aux enfants d'avoir l'intelligence, d'inventer des stratégies. On voit bien que ce sont des stratégies qui correspondent à ce qu'on va attendre d'eux dans la société. La flexibilité, la capacité d'être dans des identités multiples, de passer d'une chose à une autre, etc. Tout ça, c'est, dans le monde professionnel actuel, ce sont des requis. Aux enfants, on leur reproche.
Je vous remercie beaucoup, Simone Corfeau. Je rappelle que vous êtes psychanalyste, maître de conférence à l'université Denis Diderot Paris 7. Vous êtes membre de la Société Psychanalytique de Paris et vous avez signé avec Cécile Héroux de l'intégration collective de jeunes enfants handicapés chez RS et puis le miroir brisé, l'enfant handicapé, sa famille et la psychanalyse chez Kahneman Levy. Ainsi que plaidoyer pour l'enfant roi, donc, auquel vous avez fait allusion tout à l'heure. Didier Pleu, dont vous sortez ce livre Génération Dolto chez Odile Jacob, dont la presse a pas mal parlé. Vous êtes psychologue et vous dirigez l'Institut français de thérapie cognitive. Colline Fort-Poiré, vous êtes la directrice littéraire, chez Gallimard et c'est vous qui avez publié les écrits de Françoise Dolto. On rappellera aussi Archives de l'intime, le livre sur Françoise Dolto, très illustré, qui vient de sortir chez Gallimard.